Nous allons passer maintenant à notre sujet suivant avec la deuxième chronique de Vincent Calame intitulée Jouons collectif. Donc Vincent est informaticien, également bénévole à l'April. Et la description de cette chronique, c'est choses vues, entendues et vécues autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, donc associations, mouvements et équipes en tout genre. Témoignage d'un informaticien embarqué, entre guillemets, au sein de groupes de néophytes. Donc rebonjour Vincent.
Bonjour.
Alors, le thème du jour de ta chronique, c'est « Ça fonctionnait, cela ne fonctionne plus ». En gros, le couple infernal innovation-régression.
Oui, tout à fait. Alors, la grande phrase qu'on redoute d'entendre tous les jours, c'est « Ça marchait et maintenant ça marche plus ». J'ai même eu le droit, il y a 10 jours, à un « Ça marche pas » et sans aucun autre détail. C'est souvent donc effectivement les non-informaticiens qui s'adressent à vous parce que tout d'un coup, quelque chose ne fonctionne plus sur leur poste. Avec toujours, comme je disais, peu de détails sur les raisons. Et c'est pour ça que ce genre de phrase entraîne une vraie enquête policière pour savoir quelle est la source du problème.
D'accord, donc là tu parles de personnes donc utilisatrices qui appelle le service en gros informatique, voilà. Ou la personne qui s'y connaît un peu plus qu'elle, pour lui dire bah, oh, là ça fonctionne plus, ou ça marche plus, ou ça marche pas. Et donc tu arrives ton rôle était un peu d'essayer de comprendre ce qui fonctionnait avant et ce qui ne fonctionne plus maintenant, c'est ça ?
C'est ça, et pourquoi ? Alors parfois ça vient de la personne elle-même, mais souvent elle dit bon bah voilà, il y a une semaine j'ai fait exactement la même chose et ça marchait, et maintenant ça marche plus. Alors il y a parfois de vraies raisons matérielles, parce que l'informatique, c'est aussi du... C'est pas que du virtuel, hein, c'est aussi des réseaux, de l'électricité, et donc des disques durs qui flanchent, récemment, un bloc électrique chez notre fournisseur d'accès qui a grillé. Donc ça, c'est la première raison qu'on peut éliminer rapidement. L'autre piste qu'on cherche, c'est souvent les serveurs, puisque c'est souvent eux qui également s'arrêtent inopinément, soit parce qu'ils ont une surcharge et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on va fouiller, parce que maintenant, énormément des applications utilisées fonctionnent sur le serveur, et c'est en général le serveur qui a un problème.
C'est-à-dire qu'il faut expliquer peut-être ce qu'est un serveur, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas exactement ce que c'est un serveur. Informatique.
Oui, en fait, un serveur, c'est un ordinateur qui est connecté en permanence à Internet, qui fonctionne en permanence à Internet et qui en fait, attend la sollicitation des utilisateurs, qui va fournir un service, d'où le nom service. Bon, l'exemple le plus typique, c'est le site web. Les sites web sont fournis par des serveurs. Donc, quand vous êtes sur votre navigateur et que vous allez sur une adresse, sur april.org, il y a un serveur derrière qui répond à votre demande.
Ou ça peut être dans une association, par exemple, le serveur de fichiers. C'est-à-dire que les fichiers ne sont pas physiquement, par défaut, sur votre ordinateur local à vous, mais sur un serveur, donc sur une machine qui est localisée ailleurs dans l'espace. Peut-être ça va être au même endroit physiquement, mais dans une pièce fermée. Ou sur Internet, et vous récupérez ces fichiers depuis ce serveur de fichiers. Et donc là, effectivement, une cause de dysfonctionnement dont tu parlais, c'est les causes de dysfonctionnement matériel du serveur, donc un disque dur qui tombe en rade, entre guillemets, et voilà. Donc il faut le remplacer.
Voilà, donc ça c'est parce que le serveur est très pratique, parce que tout est concentré à un endroit, mais évidemment, une fois qu'il a une panne, c'est terminé. Mais bon, ça, c'est quand on recherche les causes de la panne, c'est ce qu'on recherche en premier, parce que c'est les plus courantes. Mais une fois qu'on a exploré ces pistes et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de problème matériel, il faut se pencher un peu plus. Et là, on affronte le dernier suspect, qui est le principal suspect et le plus sournois, qui est une mise à jour qui a mal tourné.
Une mise à jour de logiciel.
De logiciel, c'est-à-dire il y a eu un changement dans le code ce changement dans le code a entraîné des erreurs qui n'ont pas été remarquées pendant la phase de développement du code, cette erreur n'avait pas été relevée.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de tests qui ont été faits ou que toutes les cas de figure n'ont pas été testés. Et finalement, la personne qui s'en rend compte, c'est l'utilisateur ou l'utilisatrice qui teste, enfin, a un besoin et qui tout d'un coup, suite à un rajout de code, ce besoin ne fonctionne plus ou fonctionne différemment qu'avant.
Voilà, alors tout à fait. Donc, quand on produit soi-même son code et qu'on a des utilisateurs, bon, on sait que ça arrive, c'est qu'on a introduit une nouvelle fonction et puis on se rend compte, on a oublié un cas de figure isolé, on n'avait pas cliqué. Mais ça arrive en fait pour tous les logiciels, hein, c'est qu'ils soient libres et également privateurs. Ça, on y reviendra. C'est quelque chose qui peut être qui est dur à identifier. Peut y avoir des problèmes de alors les mises à jour sont souvent, bon, je reviens sur le concept de mise à jour. Les mises à jour sont souvent permanentes. On a toujours, quand on a un système d'exploitation installé sur son ordinateur, on a toujours des mises à jour de proposer sur une foultitude de logiciels. Donc le logiciel incriminé qui est la source du problème est parfois difficile à identifier. Dans les exemples que j'ai connus de problèmes de mise à jour, c'est pour des logiciels très grand public, hein, logiciels libres très grand public comme Firefox, c'est souvent lié aux questions des extensions. Alors les extensions, c'est quoi ? Beaucoup de logiciels, on propose un noyau dur, on va dire, et offre la possibilité à d'autres codeurs, d'autres de programmer des extensions qui résolvent un cas particulier. Et le problème de ce système, c'est à la fois un système très efficace parce qu'il peut proposer beaucoup de nouvelles fonctions pour un logiciel, mais c'est que souvent l'extension n'est pas développée au même rythme que le noyau principal du logiciel, et on se retrouve à tout d'un coup une extension qui ne marche plus parce que le logiciel principal a été mis à jour au jour. Alors souvent ça peut aussi ne pas marcher pour de très bonnes raisons. Je reprends un exemple de Firefox il y a un an et demi ou deux ans. Ils ont sorti une nouvelle version vraiment...
La version Quantum.
Oui, voilà, avec beaucoup de changements, mais également des changements dans la gestion des extensions. Et il y a des extensions utiles qui n'ont pas été adaptées ou qui ont pris quelques mois avant d'être adaptées à la nouvelle version.
Et alors, oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut s'imaginer que en fait un même logiciel est développé par une équipe unique, mais pas forcément le cas de Firefox. Quand tu le dis, il y a le cœur de Firefox qui est développé principalement par la Mozilla Foundation, mais tous ces greffons, ces extensions sont développées par des personnes à l'extérieur. Et il y a deux ans, à peu près, il y a eu les sorties de Firefox Quantum, où Mozilla a décidé de revoir son mode de fonctionnement, voilà, de développement des extensions pour les rendre compatibles avec d'autres systèmes. Donc la volonté était très positive. Il y a eu une annonce très tôt en avance, mais effectivement, toutes les équipes extérieures n'ont pas forcément mis à jour leurs extensions pour s'adapter à ce nouvel mode de communication, on va dire, avec Firefox. Et donc, il y a dès aujourd'hui, on le vit, je crois, chacun d'entre nous le vit régulièrement, qu'il y avait des extensions qui nous plaisaient bien, qui n'ont pas été migrées sur cette nouvelle version.
Voilà, alors quand on est informaticien, on comprend.
Voilà.
on l'accepte.
Mais on l'accepte pas forcément mieux, des fois.
Mais ce qui est plus compliqué, c'est d'expliquer justement à des non-informaticiens pourquoi l'extension qui leur était utile dans leur travail quotidien, tout d'un coup, a fonctionné, n'est plus disponible. Donc ça, il y a des efforts de pédagogie à faire. Et il y a des efforts de pédagogie et puis il y a des efforts de recherche, parce que un de mes rôles, c'est justement de trouver aussi une solution pour résoudre ce problème, soit trouver une extension équivalente qui à peu près résout à les mêmes fonctions mais qui elle est à jour, soit en recherchant dans les forums, en recherchant dans les sites des pistes. J'ai eu récemment un problème assez rigolo, enfin entre de logiciels assez importants, parce que c'est Thunderbird, le logiciel de messagerie, et Nextcloud, qui est un logiciel
D'hébergement de données.
D'hébergement de données, notamment de calendrier partagé.
Calendrier partagé.
Et donc, j'utilisais, dans le cadre de mon travail, enfin de l'équipe que j'aide, le Nextcloud comme lieu de partage du calendrier lu directement dans Thunderbird. Tout marchait. Nous avons changé de version. Enfin, nous étions sur OnCloud. Nous sommes passés à Nextcloud, hein, donc le même logiciel, mais un peu différent. Et il se trouve que cette gestion de calendrier ne fonctionnait plus avec la nouvelle version de Thunderbird. Et donc, en plus, c'est difficile à identifier parce que des gens qui n'avaient pas leur Thunderbird à jour, eux, ça fonctionnait toujours. Et là, alors que les nouveaux, ça fonctionnait plus. Et là, en cherchant sur Internet, d'abord, on découvre très vite qu'on n'est pas le seul dans le cas.
C'est ça qui est quand même très intéressant. C'est qu'à partir du moment où on fait une recherche sur Internet, ouais. On se rend compte qu'on est plusieurs à avoir le même souci. Et assez souvent, on trouve alors, soit la solution, la correction, soit ce qu'on peut appeler des fois le bricolage,
voilà.
Le contournement.
Alors ça, c'est évidemment, c'est la force du logiciel libre et de la culture de partage. Il y a une pratique physiquement ancrée dans les mœurs de publicité des problèmes. Voilà, on assume aussi dans le logiciel libre qu'il y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes, des anomalies. On ne les cache pas. Il y a les plus gros logiciels, presque tous d'ailleurs, ont des lieux de rapport où on peut pointer les anomalies pour que les communiquer à l'équipe de développement. Et ça, c'est des sources très précieuses quand on fait des recherches où on tombe sur ces rapports d'anomalies qui nous permettent de dire, parce que c'est souvent dans ces rapports d'anomalies qu'il y a la solution. Et dans cet exemple, le Thunderbird Nextcloud, c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait un paramètre à changer dans Thunderbird.
Et d'où l'importance quand on rapporte une anomalie, que ce soit sur un site web, via un forum ou à quelqu'un, un professionnel, de bien décrire l'anomalie. Et ça, c'est un travail important de discussion entre la personne technique et, on va dire, la personne utilisatrice, parce que la personne utilisatrice a ses propres mots, elle voit ses propres problèmes, mais le fait de l'accompagner pour expliquer exactement ce qui se passe, et notamment, voilà, pas à pas, permet de qualifier l'anomalie et ensuite de rendre plus simple de trouver finalement soit la correction, soit le bricolage.
Oui, plus il y a de détails, voilà. Mieux c'est pour le codeur. Parce qu'effectivement, quand je disais, quand on dit ça ne marche pas, on ne va pas très loin.
Voilà.
Parce que justement, en fait, il y a une chaîne de causalité, ça ne marche pas. Alors, il y a une phrase un peu qui dit le problème est entre la chaise et l'écran et la chaise.
Voilà. Voilà,
pour dire c'est l'utilisateur, mais... Je trouve que c'est souvent faux d'ailleurs, c'est pas souvent l'utilisateur, c'est effectivement les logiciels qui ont un problème, mais il faut repérer et souvent il faut comparer. Alors ce qui est souvent intéressant, c'est de dire pourquoi ça marche sur un poste et pas chez l'autre, par exemple.
Alors, Emmanuel Charpentier,
moi qui suis informaticien aussi, je vois ça régulièrement, ça marche pas, et à chaque fois j'ai l'impression que c'est un crime qui vient d'arriver et c'est une enquête policière qui va démarrer à partir de ce moment-là. Qu'est-ce qui marche pas exactement, dans quel contexte, quand, est-ce que c'est renouvelable, est-ce que j'arrive à le renouveler dans d'autres environnements? C'est une vraie enquête policière et il faut trouver le coupable, et malheureusement c'est souvent soi-même le développeur qui est le coupable, et c'est là qu'on regrette d'avoir fait.
Le côté renouvelable, c'est le côté reproductible. Est-ce que la personne qui va essayer de corriger le problème peut le reproduire sur un environnement identique? Et des fois, ce qui perturbe les utilisateurs et les utilisatrices, c'est qu'on n'y arrive pas parce que voilà, l'environnement n'est pas exactement le même, ou que la personne qui a rapporté le bug n'a pas décrit totalement l'opération, et donc la personne qui tente de le corriger fait autre chose et ne voit pas forcément le problème. Et on l'a moi je l'ai eu récemment sur un site web de commande de chocolat en ligne où la personne ne faisait pas exactement la même chose que moi je faisais. Elle me disait, mais ça fonctionne, mais je dis non, regardez. Puis finalement, on a réussi à tomber d'accord qu'il y avait un problème et qu'ils ont réussi à corriger. Et donc, vous êtes tous les deux informaticiens d'ailleurs, logiciel libre. Donc, tu as commencé à le parler, mais pour finir la chronique, l'avantage donc du logiciel libre par rapport au logiciel privateur, c'est pas simplement le fait que, en tant qu'informaticien, tu as accès au code source et donc que potentiellement tu peux corriger, parce que là on peut parler de gros logiciels, donc c'est compliqué. C'est aussi cet aspect, comme tu parlais, de transparence. On ne cache pas les bugs, on les affiche. De ces forums, alors soit dédiés, spécialisés sur un logiciel, soit des forums plus généralistes où, avec des mots-clés, on arrive à trouver assez rapidement, on arrive à trouver des éléments qui nous permettent de progresser. Donc ça, c'est une des forces du logiciel libre par rapport à cette problématique de ça ne fonctionne plus, ça fonctionnait, ça ne fonctionne plus.
Complètement. Un des autres forces, c'est parfois, c'est qu'on peut revenir en arrière. parce que c'est loin, je l'ai vécu aussi dans le cas de logiciels privateurs, d'un logiciel compta, où une nouvelle version du logiciel n'offrait plus une fonction d'exportation qui nous était bien utile. Dans ce cas-là, la mise à jour était faite, nous avons dû payer l'entreprise pour avoir à nouveau cette fonction, et c'était effectivement compliqué de revenir en arrière là-dessus. On était les pieds et poings liés sur ce point. Bon, là, on a abandonné le logiciel ensuite, mais bon, ça sera l'objet d'une autre chronique sur les questions des migrations qui ne sont pas toujours évidentes. Mais voilà, là, j'ai pu le vivre aussi avec notre système d'imprimante où là, il y avait un pilote pour Linux, mais propriétaire, et j'ai réussi à tomber sur un site qui me montrait comment ça fonctionnait, mais pas du tout cette diversité de résultats qu'on peut avoir quand il s'agit d'un logiciel libre.
Oui, et tu parles d'imprimantes. Pour les personnes qui cherchent à acheter des imprimantes, il y a des fabricants qui listent très précisément les imprimantes qui sont compatibles avec des systèmes libres. À chaque fois que nous, on en achète, c'est ce qu'on fait, on vérifie de manière à pouvoir effectivement piloter une imprimante de manière totalement libre. Et le point dont tu parlais, le fait qu'on peut revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on peut soit réinstaller une version ancienne du logiciel, l'autre point, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre à jour tout le temps. C'est vrai que dans le monde du logiciel privateur, il y a une course à l'armement, entre guillemets, mettez à jour. Dans le logiciel libre, on n'est pas forcément obligé, mais un point essentiel, c'est que quand on fait une mise à jour, on anticipe, on essaye de voir quelles problématiques il pourrait y avoir, et là, ça prend du temps. Ce n'est pas une migration en tant que telle, mais finalement, une mise à jour d'un logiciel, une mise à jour majeure d'un logiciel, c'est quasiment une migration. Donc, il faut la réfléchir dans ces termes-là.
Oui, il faut pas la faire à la légère. C'est toujours bien de pouvoir le tester sur un autre serveur ou sur un autre ordinateur. Moi, dans les équipes, on a des ordinateurs différents. Tous nos ordinateurs sont identiques, donc je commence toujours par en faire une. Et puis, on fait le point au bout d'une semaine. Et ensuite, parce que c'est souvent, ces logiciels sont très testés, donc c'est souvent dans les petits détails, les petites fonctions auxquelles on ne pensait pas, parce que soi-même, on ne l'utilise pas, que se cache le problème.
Exactement. Tu voulais ajouter quelque chose, Emmanuel ?
Oui. Alors moi, j'ai d'autres approches. C'est l'approche du baby step. On fait des petites étapes et des petites migrations dans un parc hétérogène. Donc c'est une autre philosophie, hein, une autre façon de voir la chose. Et donc j'aurais tendance à faire des migrations quasiment dès qu'on peut, tous les jours, autant que possible. Mais pas forcément tout le monde, pas forcément sur tous les postes et sur des postes hétérogènes. Ce qui permet de voir les problèmes au fur et à mesure, de les corriger sur la prochaine mise à jour. Et on peut faire ça tous les jours. J'utilise un système d'exploitation qu'on met à jour régulièrement, Debian par exemple, et qui me permet de mettre à jour très souvent mes logiciels. Et effectivement, je vois des bugs arriver et repartir assez rapidement aussi.
Mais c'est ton système d'exploitation à toi?
Alors,
ton ordinateur,
bien sûr. Mais
c'est pas du tout la même chose quand il s'agit de gérer des ordinateurs de tes camarades qui, eux, veulent que ça marche.
Mais cette philosophie peut fonctionner aussi, par exemple, pour un serveur web, quelque chose qui va vous fournir un service. Vous voulez commander des chocolats. Cette commande, le système qui permet de commander les chocolats, on peut envisager le Big Bang, c'est-à-dire une fois par an, on fait une nouvelle mise à jour du système, ou au contraire, des baby steps, des pas de bébé, c'est-à-dire que régulièrement, toutes les semaines, toutes les deux semaines, on fait un sprint, on travaille dessus et on fait une mise à jour partielle du système. Et effectivement, il y aura des bugs, il y aura des problèmes, il faut les envisager. Mais philosophie de déploiement, c'est pas toujours simple.
Alors, ce sont deux philosophies de déploiement. Avec Vincent et Emmanuel, on pourrait les laisser pendant 2 heures parler, mais Emmanuel va avoir l'occasion de reprendre la parole pour sa chronique après. Mais même les baby steps peuvent entraîner des régressions ailleurs.
Ah, mais terriblement.
Donc, voilà.
Bien sûr.
Mais voilà, c'est l'intérêt aussi de faire comprendre aux personnes que l'informatique, c'est pas magique, que ça fonctionne pas par magie, et que quand ça ne fonctionne plus, il y a des raisons, et qui sont souvent pas liées effectivement à la personne qui utilise l'ordinateur, parce que c'est malheureusement dans le logiciel privateur, c'est quelque chose qu'on a eu tendance à pousser, en tout cas à faire croire aux gens « Ah, j'ai fait quelque chose de mal », alors que non, c'est le logiciel simplement qui a eu un problème. Vincent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la pause musicale ?
Non, c'est
non.
Alors, on se retrouve la prochaine chronique.
Voilà, on se retrouve le mois prochain pour la prochaine chronique donc de Vincent Calame, Jouet Collectif.